Laudetur Jesus Christus.
Les 33, les 38 millions de Polonais connaissent le nom de leur futur président, Karol Nawrocki. Soutenu par le parti conservateur Droit et Justice, il a remporté un scrutin particulièrement serré. Il représente une Pologne souverainiste face à l'ancrage européen de ses adversaires. Son portrait depuis Varsovie dès le début de ce journal. De nouveau pour parler russo-ukrainien ce lundi à Istanbul. Il s'agit d'aller plus loin que ceux qui se sont déjà tenus il y a 3 semaines dans la ville turque. Mais l'optimisme n'est pas de rigueur. Au sommaire de ce journal également, les pluies diluviennes qui ont ravagé le centre du Nigeria et puis les jeunes du Soudan qui aspirent à la paix, qui comptent faire entendre leur voix. Un forum régional pour leur donner la parole avait lieu en Éthiopie ce week-end. Notre correspondante régionale s'y est rendue.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le nouveau président polonais s'appelle Karol Nawrocki. Il est ressorti vainqueur de l'élection dont le second tour avait lieu hier. Une victoire d'une très courte tête, 50,3% des voix contre son rival pro-européen Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, qui a reconnu ce matin sa défaite. La Pologne qui semble aujourd'hui coupée en deux blocs. Qui est le nouveau président polonais? À quoi s'attendre avec lui? Les éléments de réponse avec notre correspondant à Varsovie, Adrien Sarla.
Il débute tout juste en politique, mais les Polonais l'ont choisi pour être leur prochain président. Karol Nawrocki, c'est un novice en politique, inconnu des Polonais jusqu'au début de cette campagne présidentielle. Historien de formation et issu d'un milieu modeste, il a fait son chemin jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Une facette de son parcours qu'il aime mettre en avant. Et pour le situer politiquement, on peut rappeler qu'il s'est affiché au cours de sa campagne aux côtés du candidat nationaliste roumain George Simion ou encore de Donald Trump, à qui il voue une grande admiration. Toute sa campagne a été très émaillée par différents scandales qui ont fait émerger son passé sulfureux d'ancien boxeur proche des milieux hooligans. Mais pas de quoi troubler ses électeurs qui, eux, ont apprécié son côté conservateur, nationaliste, eurosceptique ou encore hostile aux Ukrainiens qu'il qualifie d'ingrats. Une fois dans le palais présidentiel, on s'attend d'ores et déjà à ce qu'il use de son droit de veto comme son prédécesseur pour bloquer l'action du gouvernement de Donald Tusk. Le Premier ministre pourrait donc se retrouver condamné à l'inaction jusqu'à la fin de son mandat en 2027. Adrien Sarla, Varsovie, pour Radio Vatican.
Et les messages de félicitations, les réactions sont nombreux, en Europe notamment après cette élection polonaise. À l'instant, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle se dit confiante dans la poursuite d'une très bonne coopération avec Varsovie. Et puis en Allemagne, le président Frank-Walter Steinmeier appelle Nawrocki à coopérer, je cite, sur la base de l'état de droit, alors que le candidat nationaliste n'avait pas épargné Berlin ou Bruxelles durant sa campagne. Le président ukrainien Zelensky dit espérer une coopération fructueuse avec le futur chef d'État polonais. Volodymyr Zelensky qui est depuis ce matin à Vilnius en Lituanie pour participer à un sommet avec des dirigeants de l'OTAN. Il doit notamment y rencontrer le secrétaire général de l'Alliance Atlantique Mark Rutte et avoir plusieurs entretiens bilatéraux. Le sort de la guerre en Ukraine qui est de nouveau sur la table ce lundi en Turquie pour des négociations directes qui visent à avancer vers un accord de paix après plus de 3 ans de guerre provoquée par l'invasion russe. Une précédente réunion dans la mégapole turque le 16 mai n'avait pas permis d'avancées concrètes. Alors que le président ukrainien réclame une rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine, le Kremlin ne consent pas pour l'instant qu'à des échanges de moindre niveau. La délégation ukrainienne est en effet menée par le ministre de la Défense, tandis que celle russe par un conseiller de second plan. Les attentes de ces pourparlers restent donc très faibles. Les précisions à Ankara d'un Andlauer.
La dernière réunion d'Istanbul n'avait pas été très fructueuse. Elle n'avait abouti qu'à un échange de prisonniers, certes important, mais les Ukrainiens étaient repartis sans un cessez-le-feu. La délégation russe avait refusé de négocier la trêve complète et inconditionnelle à laquelle l'Ukraine se dit prête. Elle avait demandé aux négociateurs ukrainiens de lui présenter par écrit leur vision d'un tel cessez-le-feu. Les chances d'y parvenir au cours de cette deuxième rencontre sont infimes. Le président russe Vladimir Poutine affirme d'ailleurs qu'une cessation des combats n'est possible qu'après des négociations sur ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre, référence à une série de demandes maximalistes du Kremlin. À Istanbul, ce lundi, la Russie est censée présenter un mémorandum qui détaille ses conditions pour un accord de paix. Son refus de communiquer cette note avant la rencontre est le signe pour Kiev que Moscou n'a pas l'intention de faire progresser les pourparlers et s'obstine à lui soumettre des exigences inacceptables. Après la dernière réunion d'Istanbul, l'Ukraine avait notamment accusé la Russie de lui demander de céder de de nouveaux territoires pour instaurer un cessez-le-feu. À Ankara, Alain Douard pour Radio Vatican.
Sur le terrain, la guerre continue et la capacité de l'Ukraine à mener des frappes en territoire russe. Hier, c'est l'aviation russe qui a été spectaculairement frappée. 41 avions russes détruits ou endommagés et 4 bases aériennes visées. Une opération qui, selon Volodymyr Zelensky, a pour objectif de contraindre Moscou de ressentir la nécessité d'arrêter la guerre. Et puis, le Royaume-Uni annonce la construction de 12 sous-marins nucléaires d'attaque dans 6 usines de munitions. Annonce faite à l'instant par le Premier ministre britannique Keir Starmer lors d'un déplacement en Écosse. Le Nigeria, théâtre de graves inondations ces dernières heures. Le centre du pays en particulier, la ville de Mokwa dans l'état du Niger, où des pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines et provoqué la mort de plus de 150 personnes. Fait également des centaines de disparus. Le bilan a également fait plus de 3000 déplacés. Les précisions de notre correspondant Ishaka Adegboye.
Selon un décompte fourni par l'Agence nationale de gestion des urgences, NEMA, 150 personnes ont été tuées, 3018 personnes ont été déplacées, 265 maisons ont été détruites et 2 ponts ont été emportés dans la ville commerçante animée de Mokwa. Des centaines de personnes sont portées disparues. Le changement climatique a accentué la variation météorologique au Nigeria, mais il est devenu évident que d'autres facteurs humains étaient également en jeu. Les inondations au Nigeria sont aggravées par un drainage inadéquat, la construction des maisons sur le cours d'eau et le déversement de déchets dans les égouts et les canaux. L'agence météorologique nigérienne avait mis en garde contre de possibles crues soudaines dans 15 des 36 États du Nigeria, dont l'État affecté du Niger, entre mercredi et vendredi. En 2024, les inondations avaient fait 321 morts dans 34 des 36 États du Nigeria, selon l'Agence nationale de gestion des urgences, NEMA. Ishaka Adegboye, Radio Vatican, Abuja.
Le Nigeria, où les violences liées au conflit foncier se poursuivent également dans l'État de Benue, au centre du pays. Au moins 25 personnes ont été tuées ce week-end par des hommes armés. Cette région est le théâtre récurrent d'affrontements entre des éleveurs peuls et agriculteurs sédentaires pour le contrôle des terres et des ressources. La paix reviendra-t-elle au Soudan ? Le pays est depuis plus de 2 ans déchiré par une terrible guerre civile. Mais malgré le conflit en cours, des jeunes restés au Soudan ou réfugiés dans les pays voisins tentent de faire entendre leur voix pour restaurer la paix et renouer avec la transition démocratique. Vendredi dernier, le réseau de la jeunesse soudanaise a organisé un forum à Addis Abeba qui s'inscrit dans une campagne régionale qui vise à rassembler des milliers de jeunes soudanais autour de l'idée de paix afin d'établir un agenda commun. À terme, ces activistes espèrent convaincre les deux généraux ennemis, Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti, de se rencontrer. Notre correspondante Augustine Passy a rencontré Mohamed Maïsera, le coordinateur de cette campagne en Éthiopie.
Cette campagne se poursuivra pendant encore 3 mois à partir de maintenant. Il s'agit pour nous d'essayer de rassembler les jeunes du Soudan, ou la plupart d'entre eux, dans une vision commune du Soudan, en leur donnant un rôle de leadership dans toute opération de construction de la paix, et aussi en tentant d'amoindrir leur participation dans le conflit actuel au Soudan des deux côtés du conflit. Les principaux responsables de cette guerre, ce ne sont pas les armes qui viennent de l'extérieur, mais ce sont les Soudanais qui se battent avec ces armes. Donc si nous récupérons ces armes, ou si nous diminuons leur nombre, nous pensons que ce sera un pas important vers l'arrêt de la guerre, ou même un pas vers l'existence de cette possibilité de l'arrêt de la guerre au sein de la société soudanaise.
Les structures de santé quasi réduites à néant dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a détruit hier un centre destiné aux patients sous dialyse, le seul du genre dans le nord de l'enclave palestinienne. À Gaza, où la distribution de l'aide alimentaire au compte-gouttes par Israël suscite toujours des protestations dans les milieux humanitaires. Ce lundi matin, encore au moins 3 personnes ont été tuées dans des tirs près d'un centre de distribution d'aide à Rafah. Et hier, avant la prière du Regina Coeli, le pape Léon XIV, à l'issue du jubilé des familles, avait tenu à prier pour les nombreuses familles meurtries par la guerre. Que la Vierge soutienne les familles dans leurs difficultés, en particulier celles qui souffrent de la guerre au Moyen-Orient, en Ukraine et dans tant d'autres parties du monde, avait imploré le Saint-Père. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera à 18h. Excellent après-midi à tous.